Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, on est ensemble jusqu'à 19h. La politique est à la justice ce que l'eau est au métal. Elle corrode, elle ronge, elle corrompt et finalement elle anéantit. C'est le dur constat de Carla Del Ponte il y a 10 ans lors d'une conférence universitaire. La procureure du tribunal international pour l'ex-Yougoslavie exprimait cette difficulté à faire appliquer une justice internationale quand des intérêts politiques et diplomatiques s'en mêlent. Et ce tribunal en question en a fait les frais au cours de ses 24 ans d'existence où en presque 11 000 jours de procès, 161 personnes ont été mises en accusation, 90 condamnés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le processus a été long, coûteux et s'est heurté bien souvent à la sourde oreille ou au refus des États de procéder à des arrestations, de protéger des témoins et encore plus d'accompagner les victimes. Ce tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a donc fermé ses portes il y a une semaine et la question de son bilan, de son héritage se pose ainsi que celle de son utilité. À qui ce tribunal a-t-il servi ? C'est la question qu'on se pose ce soir avec deux invités. Florence Hartmann, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et vous avez été correspondante pour le journal Le Monde dans les Balkans avant de devenir en 2000 porte-parole de la procureure du tribunal pénal international, Carla Del Ponte. D'ailleurs, la phrase que j'ai citée en début d'émission, on peut la lire dans votre livre « Paix et châtiment » que vous avez publié en 2007, le sous-titre « Les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale », c'est chez Flammarion. En face de vous, Céline Bardet, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes juriste international spécialisé dans les crimes de guerre. Vous avez débuté votre carrière au sein de ce tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Vous en avez publié un livre, Zone sensible, aux éditions Toucan. Et vous êtes aussi présidente de l'association We Are Not Weapons of War. Nous ne sommes pas des armes de guerre, une ONG qui développe des campagnes sur le viol comme arme de guerre et qui soutient ses victimes. Nous en reparlerons sans doute au cours de l'émission. Et puis on peut toutes les deux vous lire dans le journal La Croix aujourd'hui, puisque cette émission, comme tous les derniers jeudis du mois, est en partenariat avec le journal. Et ce soir, c'est sa rédactrice en chef, Isabelle De Golemin, qui m'accompagne dans l'animation de ce débat. Bonsoir Isabelle.
Bonsoir.
Alors, une première question qui porte sur la dernière image qu'on peut avoir de ce tribunal pénal international. C'est le suicide du criminel de guerre croate Slobodan Praljak, à l'annonce de son verdict le 29 novembre dernier, au responsable des forces croates de Bosnie, condamné à 20 ans de prison en appel pour sa participation à l'entreprise criminelle commune d'épuration ethnique de bosniaques musulmans entre 93 et 94. Il se lève pour dire qu'il rejette le verdict, boit une fiole de poison et puis il meurt quelques heures après. C'est une image qui a beaucoup circulé à la télévision, en boucle, sur les réseaux sociaux. Cette image, c'est celle d'un coupable. Est-ce qu'on a trop entendu, est-ce qu'on a trop vu les coupables et pas assez les victimes tout au long de la vie de ce tribunal, Céline Bardet ?
Alors déjà, l'image du suicide de Praljak, c'est quand même assez surréaliste, je trouve, quand même. Même moi, j'ai trouvé que c'était digne d'un film. Donc ça, je pense que malheureusement, ça va aussi entacher beaucoup la clôture de ce tribunal. Après, bien sûr qu'on a beaucoup parlé, on voit beaucoup les auteurs de crimes et un peu moins les victimes. Oui, je sais pas. Enfin, ces questions-là, je sais pas ce qu'il faut dire par rapport à ça. Les victimes, elles ont aussi leur place quand même de s'exprimer au sein de ce tribunal. Donc ça reste important. Et le problème, en fait, c'est le lien. C'est ça, on en parlera peut-être après. C'est oui. Le lien, le processus de justice qui est quand même là. Un processus de justice, il est là pour juger quelqu'un pour une responsabilité pénale.
Dans votre livre,
individuelle.
Vous parlez quand même d'un manque d'accompagnement de ces victimes.
Voilà. Mais exactement. Mais ça, c'est autre chose parce que la question, c'est est-ce que c'est le rôle d'un tribunal de faire ça? Moi, personnellement, je ne le pense pas, comme je ne pense pas que ce soit le rôle de la justice. La justice est un processus qui permet une réparation pour les victimes, mais ça n'est pas le seul, comme ça n'est pas le seul qui participe à la réconciliation, etc. Et là, il y a eu une faille, oui, parce qu'il n'y a pas eu de suivi sur place, parce qu'effectivement, on n'a pas dit, mais j'ai travaillé 10 ans dans les Balkans, après, sur le terrain, et il y a eu cette faille-là. Il n'y a pas d'accompagnement, que ce soit au niveau des gouvernements, mais je pense que c'est quelque chose que le TPI aurait dû aider à développer. Et il ne l'a pas fait, ou il l'a fait assez tardivement, malheureusement.
Florence Hartmann, sur la place des victimes, est-ce qu'elles ont eu leur place déjà au sein de ce tribunal pénal ?
Il faut d'abord rappeler que dans le cadre de ces procès, comme on a pu le voir d'ailleurs dans les nombreux procès qui ont concerné l'Holocauste et après Nuremberg, ce sont des tribunaux qui mettent les victimes en tant que porteurs de preuves de cette manière-là, donc pour des raisons entre guillemets instructives. instrumentales qui mettent les victimes au centre de ces procédures. Il y a eu 5500 victimes qui ont témoigné. Elles ont été entendues. Alors bien évidemment, sur un lieu, une guerre où, comme toutes les guerres modernes depuis le XXe siècle, et ça continue, ce sont les civils qui sont les premières victimes, et ça c'est une nouveauté qui arrive avec la tragédie du XXe siècle qui se poursuit. Donc les victimes sont des pauvres personnes entre guillemets, et elles ne sont pas aussi intéressantes que pouvaient l'être des victimes qui participaient à un événement qui était mondial comme la Deuxième Guerre mondiale. C'est la guerre en ex-Yougoslavie, ça va être la guerre au Rwanda, ça va être des massacres dans ces pays-là ou lointains, et on doit les entendre, et elles ne parlent pas comme un professeur d'université. Et ce sont de longs témoignages qui sont absolument passionnants pour les historiens, pour les experts, pour les gens qui ont le temps, pas nécessairement pour le temps médiatique.
Donc, et le temps juridique ?
Et pour le temps juridique, oui, sauf que la critique qu'on fait, qui est un fait, mais est-ce que ça doit conduire à une critique, c'est que les procès sont trop longs. Donc, mais comme c'est une procédure où il n'y a pas, comme chez nous, de juge d'instruction, mais l'enquête se fait dans la salle d'audience, ce sont des procédures qui sont trop longues. Donc c'est la formule. Il faut peut-être passer du diesel à l'essence, à savoir changer de système juridique pour que ça aille plus vite. Mais elles sont importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille beaucoup depuis toujours avec les victimes. Je suis dans plusieurs ONG de victimes dans les Balkans. Et sans la justice, sans le tribunal, elles n'auraient jamais eu de voix. Tous les morts n'auraient jamais eu de voix. Les charniers n'auraient pas été localisés. Les corps n'auraient pas été exhumés. Cela dit, ce tribunal n'a pas institué de réparation financière, et ça c'est un énorme manque. Les gouvernements locaux ou l'Europe n'ont pas comblé ce manque, et beaucoup de victimes ont eu l'espoir qu'elles témoigneraient, mais les procédures n'avaient pas besoin d'eux, ils ont été laissés pour compte et pas assez accompagnés, c'est vrai.
Isabelle de Golemin.
Oui, Céline Bardès, qui complexifie peut-être un peu les choses, c'est que ce tribunal, contrairement à Nuremberg justement, il a été créé pendant la guerre.
C'est-à-dire oui, que oui, pendant la guerre, c'est peut-être dans ça aussi qui est,
voilà, dans le courant de la guerre. Donc il y a des victimes qui n'étaient pas au début, qui le sont devenues après. Enfin, c'est peut-être ça aussi qu'il faut rappeler aux auditeurs, c'est que les conditions de création de ce tribunal sont quand même tout à fait novatrices.
Ouais, enfin les conditions de création du tribunal, elles sont totalement novatrices parce qu'il a été créé sous le chapitre 7, donc sous une résolution du Conseil de sécurité, comme l'a été le tribunal pour le Rwanda, et ça ce sont deux exceptions, évidemment. Après, par rapport aux victimes, ça change rien dans le fait où le tribunal est compétent sur la durée du conflit qui est déterminée, et après d'ailleurs. Donc pour les victimes, ça change rien, mais effectivement, la nature même de la création de ce tribunal était nouvelle. D'abord, et voilà, et se pose la question, ça veut dire qu'il y a eu aussi un consensus et qu'il y a eu une décision au niveau du Conseil de sécurité, ce qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui.
Mais du coup, c'est compliqué parce qu'on juge quelque chose qui est en train de se passer. C'est peut-être ça que les gens du mal à...
Oui, pas commencer tout de suite. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est aussi un cache-misère, parce qu'on n'a pas pu empêcher. Oui, le tribunal est créé parce que la communauté internationale qui s'est engagée n'a pas pu empêcher le retour des atrocités les pires sur le territoire, sur le continent européen depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'année suivante, rebelote, c'est un génocide, au Rwanda, en 3 mois. Et on crée comme réponse, quelque chose qu'on ne peut même plus faire aujourd'hui, par le Conseil de sécurité, comme vous venez de le dire, qui à l'époque n'était pas neutralisé par le veto d'une partie de ses membres, à savoir aujourd'hui la Russie et la Chine, lorsqu'il s'agit de justice internationale ou tout ce qui peut être relatif aux droits de l'homme, disons de manière générale. Et donc on avait une fenêtre de tir exceptionnelle, donc on s'en réjouit pendant les années 90, où par rapport à un manquement dramatique qu'il faut pas oublier, laisser le plus jamais ça se refaire, quelle que soit l'ampleur du ça, c'est ce scandaleux. Et ça a été cette réponse-là. Mais ça faisait 70 ans qu'on voulait une justice internationale. Ça a pu être créé pour l'ex-Yougoslavie et ouvrir à d'autres choses.
Non, mais ce que ça a peut-être, pardon, pour rebondir sur votre question, c'est que ce que ça a peut-être, évidemment, c'est que quand il a été créé, d'abord, il n'a pas empêché Srebrenica en 95, c'est quand même quelque chose de fou. Et puis, surtout, même longtemps après, des années après, le problème, c'était de pouvoir aller sur le terrain et de récupérer des éléments de preuve et d'accéder à ces zones de conflit, et qui est un problème, et on en parlera peut-être après, qui est très récurrent aujourd'hui.
On va même en parler tout de suite, voilà. Céline Bardet, vous insistez souvent sur les particularités du terrain. Est-ce que les spécificités d'un pays où se met en place un tribunal pénal international échappent encore aux magistrats aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour les saisir, ces particularités de terrain?
Ouais, alors, si je comprends... Le tribunal,
vous dites qu'il faut soutenir les institutions domestiques qui prennent vrai risque sur ce terrain.
En fait, il y a deux choses. Il y a la question d'un tribunal effectivement pénal international qui est unique et singulier et qui est une institution très particulière, etc. Qui est à La Haye. On a beaucoup entendu, et même sur le terrain, dans les Balkans évidemment, La Haye c'est très loin, c'est très propre, c'est très tout le monde est bien habillé et ça paraît très loin pour les. Mais le tribunal n'empêche qu'il a permis aussi. Ce qui n'était pas possible au début, aussi du fait du conflit et de la reconstruction, un processus au niveau national. Et moi, ça, j'en parle beaucoup parce qu'on n'en parle jamais.
Vous avez participé à la création d'une unité de guerre.
Voilà, j'ai participé à la création d'une unité de crimes de guerre à Gorzko, où en fait, on a formé les magistrats, on a créé des unités spécialisées qui en fait n'existaient pas à ce moment-là.
Avec très peu de moyens,
avec quasiment rien.
Des moyens qui venaient d'où?
Là, en plus, que j'avais demandé à la France, que je n'ai pas eu, et donc ce sont les Américains qui m'ont donné 50 000 euros, ce qui est quand même pas énorme non plus pour ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est dit. Mais et qui a très bien fonctionné, qui fonctionne toujours. Ensuite, il y a la chambre spéciale à Sarajevo, et là, je regardais tout à l'heure, parce qu'il y a eu, par exemple, 198 procès en première instance qui ont été conduits, qui ont impliqué 323 accusés en Bosnie. Il y en a d'autres qui ont été conduits en Croatie et un petit peu en Serbie, un peu plus difficile en Serbie. Mais voilà, donc il y a un process qui se met en place. Donc il faut former les gens, il faut travailler avec eux. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et d'ailleurs c'est valable pour les victimes, et ce que disait Florence Hartmann est très juste aussi, c'est que oui, il n'y a pas eu ce système de réparation au sein du tribunal. Il a été mis en place maintenant en cour pénale internationale, donc une espèce de leçon tirée, maintenant à voir aussi si ça fonctionne. Le problème, c'est qu'il y a un fossé. C'est vrai que je pense, moi, je parle beaucoup du terrain et dans ce livre, c'est qu'il y a un fossé complet entre ce tribunal qui est là et puis ce terrain. Et il aurait fallu, encore une fois, pas nécessairement. C'est pas le rôle du tribunal. Je pense pas, moi, fondamentalement, que ce soit le rôle du tribunal. Comme je pense pas fondamentalement que c'est le rôle de la justice de réparer.
Est-ce que ce serait pas son rôle d'accompagner les unités nationales?
Oui, en tout cas, de permettre ça. Ça, oui. Il y a beaucoup. Moi, j'ai juste fini avec une anecdote. C'est qu'il y a quelqu'un, bosnien, qui était un des premiers témoins du TPY, qui était venu témoigner dans l'affaire Tadic, et qui était très fier de ça au tout début. Et quelques années après, il a eu cette phrase qui m'a profondément marquée. Il m'a dit, tu vois, j'étais très fière et tout ça, et maintenant j'ai honte. Et pourquoi il avait honte, en fait? D'abord parce qu'il y a la lenteur du tribunal, mais on peut parler de tout ça, mais aussi parce que c'était un des survivants du camp de Luka à Brzko, qui sont des gens qui n'ont absolument jamais été suivis, qui ont vu des enquêteurs arriver, et je dis pas ça contre les enquêteurs, hein, parce qu'eux, ils font leur travail, et qui sont arrivés, qui prennent ces trucs-là, et qui s'en vont, parce que leur métier, c'est ça, et il n'y a pas de suivi derrière. Et ces gens-là, ils ont eu aucun suivi, il y a des traumas énormes, etc. Et donc, ils ont eu le sentiment d'avoir été abandonnés, et même d'avoir été abandonnés presque deux fois quelque part. Donc c'est là où je pense qu'il y a eu une espèce de vide et de raté et dans la communication aussi entre le TPI les Balkans.
Ce qui nous amène à la question de la confiance. Florence Hartmann, vous l'écrivez plusieurs fois dans votre livre Paix et Châtiment. Le tribunal, la justice internationale n'est pas encore parvenue à convaincre l'opinion publique. Qu'est-ce qui lui a manqué pour la convaincre? C'est cette absence-là sur le terrain qui a été facteur de manque de confiance, principalement?
Non, le manque de confiance, c'est que... D'abord, je suis d'accord sur le fait, là, on parle d'un bilan, d'un tribunal qui ferme quasiment complètement ses portes en fin d'année, mais une justice internationale est nécessairement un point
moins un point de départ ou d'accompagnement. Hein. Il y a ce qu'on appelle la complémentarité, c'est-à-dire qu'il est là pour fonctionner, pour mettre fin à l'impunité, le début de la fin de l'impunité, lorsque ça ne peut pas se faire sur le terrain. Mais c'est pour repasser les commandes aux justices nationales. Et n'oublions
pas... Ce qui n'est
pas
toujours évident.
Oui, mais n'oublions pas que la plupart des pays européens ont une compétence universelle, sauf que les politiques veulent toujours la réduire et que l'on pourrait, parce que les criminels de guerre s'en vont, voyagent, s'installent à l'étranger, il y en a beaucoup. Les États-Unis ont renvoyé la totalité pratiquement des soldats qui participaient aux deux bataillons qui ont commis le génocide de Srebrenica en juillet 1995. La totalité des soldats sont partis avec les deux, trois ans après les réfugiés en affirmant qu'ils étaient réfugiés de guerre. Ils ont tous été extradés pour être jugés en Bosnie. En Europe, on voudrait voir plus souvent, l'Allemagne le fait beaucoup plus, la France n'a pas du tout envie alors qu'on a créé les structures. La Suède, il y a plusieurs pays qui le font, même la Suisse, et la France est une des dernières, et la Grande-Bretagne sur la liste. Donc il y a cette complémentarité, et le problème c'est que les politiques ont accepté de créer des mécanismes pour mettre en œuvre des morceaux de papier extrêmement importants. Alors, il y a des morceaux de papier qu'on prend sérieusement ou pas. Il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour moi, c'est ma Bible. Il y a les conventions de Genève. C'était pour humaniser la guerre qui est en soi déjà très inhumaine, donc ne pas en rajouter. Ça n'a pas été signé par des bisounours, genre Staline et Churchill, par exemple. Sauf que ça n'avait jamais été transcrit dans la pratique du droit. Et c'est ces tribunaux internationaux qui ont démarré ça pour que tout le monde, internationaux ou locaux, avec l'assistance de personnes qui expliquent comment la procédure marche, parce que les crimes de masse, c'est pas la même chose. Et si la politique met des bâtons dans les roues parce que les diplomates se disent il vaudrait mieux que je puisse négocier l'impunité avec un grand méchant comme Assad ou comme le président du Soudan, etc., que d'avoir des juristes qui vont, en fonction des preuves, demander des comptes à des grands criminels de guerre, eh bien, on n'arrivera jamais. Et cette confiance, elle est là, c'est-à-dire que comme pour un procès au national par rapport à un puissant ou une élite impolitique, on a envie que la justice soit indépendante, de la même manière, la confiance se fera pour les crimes de guerre lorsque l'indépendance de la justice sera établie.
Mais ce que vous dites, ça entame cette confiance. Là, puisque vous écrivez vous-même, les hauts responsables ne sont pas mis en cause et c'est une justice qui sanctionne plus la multiplicité des participations à un crime de guerre qu'elle ne stigmatise la criminalité, la mise en place d'une politique criminelle discriminatoire.
Bah, regardez, lorsque aujourd'hui on parle du bilan du TPI, on va dire il a inculpé Slobodan Milošević, qui était le chef du régime le plus criminel en ex-Yougoslavie dans les années 90 et qui n'a pas été condamné parce qu'il est mort d'une crise cardiaque qu'il a provoquée lui-même, donc suicidé d'une certaine manière avant la fin de son procès. Mais le jour où il a été inculpé par la procureure qui était Louise Arbour à l'époque, il y a les Français, les Britanniques et les Russes qui ont téléphoné et qui ont demandé à Louise Arbour d'attendre. Et elle est partie dans une villa d'amis dans le sud de la France sans téléphone pour ne pas subir de pression politique. Donc voilà, ce qu'il ne faudrait pas. Aujourd'hui, est-ce que Assad aura droit à la carte de l'impunité qu'évidemment Poutine va demander à la table des négociations? Est-ce que les Français et les Américains vont céder sur ce point ou jouer sur la carte temps sans céder sur le fond? Nous ne savons pas.
Isabelle de Golemin.
Oui, il y a effectivement les grands pays, mais il y a aussi les responsables politiques locaux qui ont sans arrêt joué avec les résultats du tribunal et qui ont beaucoup joué sur la corde sensible nationaliste. Alors, vous dites une éloge d'ailleurs dans vos interviews à la Croix qu'un tribunal c'est pas fait pour la réconciliation. En fait, c'est la justice, c'est pas la réconciliation. Et c'est vrai qu'on a le sentiment, je crois que c'est vous qui dites ça, Florence Herrmann, qu'il y a aujourd'hui plus de haine qu'avant. Donc, oui. Du coup, on se dit, mais alors ça servait à quoi?
Bah, c'est-à-dire que la justice, quelle qu'elle soit, et d'autant plus quand elle est sur des crimes massifs, elle est là pour demander des comptes et faire payer aux criminels leurs dettes envers la société. Mais si la société ne considère pas le crime comme un crime, la justice ne peut rien y faire. C'est-à-dire que la société et la justice, enfin la justice, une partie de la société, si elle est rejetée, non pas parce qu'elle est extérieure, même si bien sûr la proximité est toujours préférable, mais s'il n'y a pas cette possibilité, il faut qu'il y ait une justice quelque part, un moment sans doute. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est la responsabilité des sociétés. Alors ce que j'ai dit, c'est que l'Europe, pendant un certain temps, avec ou sans les États-Unis en fonction, a fait pression sur des régimes qui continuaient à glorifier les politiques qui avaient été conduites pendant la guerre, donc qui sont des politiques qui pouvaient atteindre leurs objectifs comme étant des crimes de masse. Ils ont un peu forcé, dès qu'ils ont lâché du mou, les nationalistes sont revenus à la charge et espèrent obtenir que ces crimes payent, parce qu'ils n'ont pas encore payé. Donc c'est ça la substance. Quand il y a eu Nuremberg, il était clair qu'il y avait la condamnation de personnes identifiées, avec un rôle particulier dans un régime, mais il y avait aussi la condamnation claire et nette pour régime, tout le monde, du régime et de l'idéologie. Là,
ça, c'est pas le cas.
Elle n'est pas explicite parce que les juges ne voulaient pas être accusés de faire de la politique, et c'était sur la réserve. Mais sur les faits établis, elle est implicite. C'était aussi à la société de traduire ce qu'a fait la société civile, sauf que les politiques le font pas et que on discute avec des gouvernements qui glorifient les crimes et les résultats des crimes.
Alors, je voudrais qu'on revienne juste aux victimes une dernière fois avant d'avancer encore un peu vers la problématique des États. Céline Bardet, vous avez donc cofondé cette ONG, We Are Not Weapons of War. Vous avez fondé, d'accord. Et vous êtes présidente de cette ONG. Ouais. Et donc vous défendez les victimes du viol comme arme de guerre. Vous avez beaucoup travaillé aussi aux côtés des victimes sur le terrain. Aujourd'hui, de votre expérience, qu'est-ce que ce tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a apporté à ces victimes? Est-ce qu'il y a eu, une libération de la parole? Plus encore, on parlait d'une réparation tardive. Qu'est-ce que ce tribunal a apporté concrètement aux victimes?
Non, mais je crois que d'abord ce que vient de dire Florence Hartmann, oui, c'est très juste, c'est que TP grec, il est certainement pas allé jusqu'au bout par peur, de poser quelque chose. Donc ça pose un problème. Après, juste revenir, c'est que quand on parle de crime de guerre, de crime contre l'humanité, on parle de quoi? On parle de conflit, et donc on parle d'enjeux politiques. Enfin, tout ça, c'est très, pour prendre le terme, on n'est pas des bisounours et on est vraiment dans un terrain pour le coup où c'est pas du bisounours. L'histoire du nationalisme, c'est vrai qu'il y a un regain de nationalisme dans les Balkans, et ce que je trouve assez stupéfiant, c'est qu'il vient aussi des très jeunes. Donc des gens qui n'ont pas connu du tout le conflit. Et ça, c'est dû aussi à un problème d'éducation, d'information, etc. Et c'est là où je fais la boucle, parce que là où le tribunal a failli, il a essayé de le faire sur les dernières années, mais un peu trop tard, c'est aussi un problème de communicabilité. Et voilà. Et donc, ce qui reste de ce tribunal quand même, ce sont des outils, ce sont plein d'éléments de mémoire et qui posent quelque chose et qu'on peut pas, à part si on rentre dans les fake news, cela dit, on est en plein là-dedans maintenant, mais je veux dire, il y a des choses qu'on peut pas nier, qui sont là, qui sont factuelles. Donc, il faut voir aussi comment ça sera utilisé plus tard, et je pense qu'il y a des choses à faire avec ça. Donc ça, c'est le premier héritage du tribunal. Deuxièmement, d'un point de vue juridique, c'est un tribunal qui a produit énormément de choses d'un point de vue juridique. Il peut paraître très abscons pour, évidemment, la plupart des gens, mais quand même. Et concernant le viol de guerre, sur lequel je travaille plus particulièrement depuis des années, le tribunal il a été un des premiers à qualifier les violences sexuelles dans les conflits, et ça c'est super important, parce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, on parle de plus en plus de viols de guerre, tant mieux, mais on entend toujours de manière récurrente impunité, etc. Non, il y a bien sûr qu'il y a une impunité sur les viols de guerre, c'est pour ça que j'ai monté cette ONG, mais il y a aussi des condamnations, il y a du droit qui s'est mis en place, et dès les années 2000, donc même avant, donc ça c'est important de le dire, et ça c'est quelque chose que le TPY a fait.
France Culture, du grain à moudre, Émilie Chaudet.
À quoi le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a-t-il servi? C'est la question qu'on se pose ce soir avec la journaliste et auteure Florence Hartmann, avec la juriste internationale Céline Bardet. Émission en partenariat avec la Croix, co-animée avec Isabelle de Golemin. Et vous avez justement une question, Isabelle.
Oui, je voulais savoir justement par rapport à cette jurisprudence dont vous parlez. Concrètement, si on prend aujourd'hui des conflits comme la Syrie ou comme d'autres conflits qu'on peut avoir, à quoi ça va servir? Est-ce qu'il y a des choses qui vont pouvoir être réutilisées de tout ce que vous avez dit pendant toutes ces années au tribunal, réutilisées aujourd'hui, par exemple?
Non, bien sûr, c'est déjà utilisé par les juristes et le droit international. Moi, je dis tout le temps, parce qu'on a tendance, on se dit, ah, c'est très complexe, on a l'impression que le droit international pénal, et honnêtement, je pense que c'est cultivé par les juristes, ce truc de... Non, c'est pas si, c'est complexe. En fait, non, c'est complexe, mais ça n'est pas compliqué. Maintenant, bien sûr que c'est utilisé, ça l'est déjà, et ça le sera après. Et il faut pas oublier non plus que le TPY, il a donné naissance, ou je sais pas, où il a poussé, comme on pousse son enfant sur un vélo, plein de choses derrière. Il y a des cours hybrides qui sont mis en place au Cambodge, en Sierra Leone. La difficulté, je reviens parce que je trouvais que c'était un très très bon point, c'est qu'en fait la question c'est est-ce qu'on peut juger, parce que bien sûr que dans l'absolu il faut juger le droit et ne pas rentrer dans la politique. Moi je rentre pas du tout dans la politique, mais ça n'est pas, il y a la réelle politique, je sais pas, voilà, on le voit aujourd'hui avec la Syrie, je travaille beaucoup sur la Libye en ce moment, alors je vous laisse imaginer, mais on doit toujours tendre à ça, essayer de le faire. La question, c'est est-ce qu'on peut juger, je ne sais pas si c'est ça que vous pensiez tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut juger des choses pendant un conflit ou juste après un conflit? C'est la vraie question. En ce moment, moi, je rentre de Centrafrique, il y a la Cour pénale spéciale qui est en train de se mettre en place dans un pays qui est entièrement encore en conflit. Est-ce qu'on peut arriver à... Et c'est très bien. Et ça aussi, j'allais dire, c'est un petit bébé du TPY. Mais est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'on peut juger? Est-ce qu'on peut avoir accès à tout? Comment on fait quand on n'a pas accès aux victimes? Nous, on travaille sur des outils technologiques maintenant, sur le viol de guerre, là-dessus.
C'est
parce que on développe un qui va être... on en parlera beaucoup en début d'année. On développe un outil qui permette aux victimes d'alerter, qu'on puisse rentrer en contact avec elles. C'est un peu... Franchement, ça prendrait trop de temps de l'expliquer, que ça s'appelle le backup, mais je reviendrai en parler avec plaisir. Parce qu'on est dans des nouvelles configurations aussi, on est sur des zones qui sont pas accessibles, donc comment on fait, comment on prouve les choses. Donc voilà. Après, pour revenir sur le plan juridique, bien sûr, il y a eu des définitions, il y a eu tout un travail de jurisprudence qui est hyper important. Donc je veux dire, il y a ce qui est visible pour moi, enfin, peut-être plus visible, qui est l'outil pédagogique, la mémoire, les archives, et ce que j'espère, et je ne sais pas, j'ai un doute, est-ce que le tribunal, ou est-ce qu'on va pouvoir, en tout cas c'est public, se servir de ça pour faire des outils pédagogiques qui soient accessibles? Parce que j'engage tout le monde à regarder.
Excusez-moi, tout est ouvert comme archive.
Oui,
il n'y a pas de secret,
je crois.
Enfin, ce qui relève de l'instruction, donc n'a pas été présenté. Ouais. Pas des archives du bureau du procureur, hélas. Parce que relève de l'instruction, oui et non. C'est-à-dire que si elles n'ont pas servi, elles ne relèvent pas nécessairement de l'instruction, mais globalement, ils le considèrent. Donc tout ce qui a été présenté publiquement lors des audiences est public.
C'est juste pour finir, c'est de dire que justement, il faut en faire des outils qui soient accessibles au public. Et ça, c'est difficile.
Mais vous parlez d'outils pédagogiques juridiques.
Les outils juridiques, j'ai envie de dire, c'est presque plus facile, parce que j'ai dans le monde des juristes. Moi, ça va. Je regarde un jugement du tribunal, il me sert, et parce que j'ai. Mais moi, je parle donc sur le juridique. Bien sûr qu'on s'en sert. Aujourd'hui, on s'en sert depuis très longtemps. Donc ça, c'est un héritage qui est hyper important. Mais je voulais dire aussi, plus sur le travail qu'a fait le tribunal, c'est que faire des choses qui soient accessibles. On parlait des audiences. Mais je défie quiconque de regarder une audience du TPY. C'est super difficile à suivre. C'est assez indigeste.
Les enquêtes, ça a été fait. Florence Hartmann, été utilisé aujourd'hui. Il y a une uniformisation de la prise de témoignage pour que ce soit fait par des intermédiaires qui sont des ONG, par exemple. Donc, il y a une formation pour que à la va-vite on puisse avoir quelque chose qui ne soit pas perdu ultérieurement lorsque une structure juridique qui aura des contraintes dira ça n'a aucune valeur parce que les témoins sont peut-être morts, les témoins seront peut-être plus retrouvables. Et il y a quelque chose de fabuleux et qui est extrêmement important, c'est aussi bien il y a des terrains inaccessibles, aussi bien il y a des gouvernements qui font semblant de donner accès, puis qui cachent tout ou qui brûlent, etc., etc. Ce qui est extraordinaire, c'est que bon, vu l'issue de la guerre pour l'instant en Syrie, on imagine bien que Assad peut détruire tout ce qu'il veut comme preuve. La seule chose, c'est qu'il y avait Internet et que la plupart des preuves par l'expérience du tribunal a été déjà recueillie, rassemblée et sortie du pays par un travail collectif fabuleux, aussi bien de d'ONG que du citoyen victime ou dans une ville bombardée, et rassemblée, digitalisée à l'extérieur. Donc là, c'est in situ et au moment même où on a, ce qui est très rare dans d'autres situations.
Ça c'est c'est grâce au TPI grec finalement.
Par cette gymnastique.
Je voudrais TPI, qu'on parle. Excusez-moi, il faudrait quand même qu'on avance dans ce débat de la responsabilité des États et vous écrivez, Florence Hartmann, toujours dans ce même livre, que les grandes puissances tiennent les cordons de la bourse et que le sort du TPI est entre leurs mains. Comment, en fait, la justice internationale peut se sortir de cette mainmise des États qui a bloqué des preuves, notamment en Bosnie, sur la responsabilité de la Serbie dans le génocide de Srebrenica. Comment est-ce que le tribunal pénal international aujourd'hui peut se dégager.
La question, elle est par rapport au TPI, mais elle est valable pour la Cour permanente, Cour internationale permanente. C'est-à-dire que si vous avez une Ferrari, envie qu'il y ait un code de la route qui vous limite à 130. Et c'est exactement ça. Les États, les grandes puissances respectueuses, a priori, du droit, donc les démocraties, les pays européens notamment, favorables à la justice, n'ont pas envie d'avoir un code de la route, des règles, donc dans l'occurrence, qui limitent leur manière de faire la guerre. C'est-à-dire que quand vous avez des terroristes Daesh ou autres et qu'ils sont dans un milieu urbain, vous ne voulez pas avoir un juriste, une convention internationale et des obligations qui vous dit que vous ne pouvez pas bombarder au milieu d'une zone civile parce que les dommages collatéraux ne sont pas des dommages collatéraux, ce sont des familles, des gens, des civils qui doivent être protégés, qui sont tués. Donc la justice internationale fait avancer le droit, donc renforce le code de la route si on veut, pour comprendre, et ça n'arrange pas tout le monde parce que personne ne veut être responsable. Aujourd'hui vous avez des guerres qui se font, on appelle ça en anglais les proxy wars, c'est-à-dire des guerres par procuration. Vous payez des auxiliaires quelque part et vous restez de l'autre côté les mains bien propres. Eh bien le droit international théoriquement vous explique, comme pour la mafia, que même si vous n'étiez pas sur les lieux mais que vous avez participé, vous êtes responsable. Donc cette codification n'arrange personne. Donc évidemment, on tient à la justice internationale pour qu'elle ne codifie pas et pour que la Ferrari puisse continuer à rouler au-dessus de la vitesse.
On parle de prise en otage des peuples par les politiques à l'issue de ces différents verdicts, du fait que le tribunal pénal international, que ce soit en ex-Yougoslavie ou ailleurs, rende des jugements. Les peuples ne sont pas toujours autorisés à s'emparer de ces avancées-là. Quels outils les futurs tribunaux, quels outils la justice pénale internationale aujourd'hui peut mettre en place pour s'assurer une meilleure indépendance?
Une des leçons qui a été tirée, ça a été le mettre en place un fonds de réparation, par exemple, pour les victimes à la Cour pénale internationale. Encore une fois, à voir comment ça fonctionne. Il est en train d'être mis en place, d'être mis en œuvre pour l'affaire, je ne sais plus si c'est Bamba ou... C'est peut-être une bêtise, mais en tout cas pour une affaire devant la CPI, c'est compliqué à mettre en œuvre parce qu'à un moment, c'est qui on considère victime, jusqu'à où, etc. Donc c'est compliqué. Moi, je vous le dis personnellement, je ne pense pas, je pense que ça devrait être fait différemment. Moi, je ne crois pas du tout que c'est le rôle du tribunal de faire ça. Je pense que c'est trop compliqué.
De faire quoi?
De mettre en place des fonds de réparation pour les victimes, je sais pas.
On demande trop à la justice pénale internationale
aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a ça aussi, et pour revenir, c'est tout ce que dit, bien sûr, Florence, est extrêmement juste. Il y a un moment, mais en même temps, c'est comme l'ONU. Je veux dire, à un moment, l'ONU, c'est qui? Ce sont des États. Donc les États, ils décident, et puis à un moment, ce qui leur plaît pas, ils disent non. La CPI, elle aura l'argent que l'État voudra bien leur donner, que les États... D'ailleurs, ça a été la même chose. Donc je pense qu'il
y a d'autres choses. Mais ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est en train de se passer à côté, et notamment avec les nouveaux, enfin les derniers conflits et la Syrie, exactement ce que vous disiez, et sur la Libye. Nous, on travaille beaucoup avec la Libye. Très compliqué, c'est qu'aujourd'hui il y a la technologie, qu'il y a d'autres moyens et que ces preuves elles remontent, etc. Donc la vraie question, ça revient à chaque fois à la vôtre, c'est à quel moment on peut juger la guerre et les crimes internationaux ? Est-ce qu'on peut arriver à les juger tout de suite ? Est-ce qu'on peut avoir une justice complètement indépendante ? Franchement, moi j'aimerais bien.
Ça pose la question du temps.
Mais ça
juridique,
pose aussi la question du temps.
Parce que le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie devait initialement, c'est ce que j'ai appris en lisant votre livre, Florence Hartmann, en 2010, finalement. Il a fermé la semaine dernière. Qu'est-ce qui a compté dans ce report de délai ?
On peut parler des failles, des faiblesses, etc. Mais il faut d'abord dire qu'il y a eu tellement de crimes que aucune justice n'aurait fini en un siècle.
Pourquoi est-ce qu'on a décidé de sa fermeture alors que tout le monde n'a pas été jugé ?
Mais parce qu'il y a aussi encore un process, au niveau national. Enfin, je l'aurais dit.
Non, mais parce qu'il y a de la politique aussi parce que en 2001, il y a eu le 11 septembre et que on s'en fichait de ce qui s'était passé et de toutes les grandes paroles qu'on avait pu donner en promettant aux victimes qu'elles ne vivraient pas dans l'injustice et que les responsables seraient punis. Mais attendez, ce qui est très important, et c'est à nous complètement collectif, de nous réapproprier la justice, nécessairement le tribunal international. Mm-hmm. Cette justice, parce qu'on a pris conscience qu'enfin on avait le droit de dire fin à l'impunité, ce qui est une nouveauté et qui est la plus belle chose que nous ait offerte cet horrible 20e siècle, pour simplifier sur ces sujets-là. Et que cette conscience-là, chacun, après les instruments, on les trouvera. Est-ce que ça sera l'extérieur parce que personne ne peut rien faire ou que les témoins peuvent être tués dans leur propre pays? Est-ce que ça sera dans nos pays? Parce que nous aussi, on doit juger si les victimes nous disent, quelqu'un a essayé de le faire pour la Syrie.
Mais
en Espagne,
dire non à l'impunité
à Madrid,
aujourd'hui, est-ce que ça compte pour un dirigeant comme Bachar
al-Assad? La sœur de la victime dans les prisons syriennes est espagnole. La justice a dit non parce qu'ils ont peur. Il faut arrêter, il faut que tout le monde puisse s'y mettre. Il faut absolument dire non à l'impunité. Mais c'est une volonté citoyenne mondiale. D'abord parce que même si on est égoïste et qu'on n'en a rien à faire des droits de l'homme, ou de l'altruisme, ou du droit de l'homisme, ou tous ces affreux mots qu'on entend aujourd'hui, et qui, ça me fait pleurer, de savoir qu'on les traite comme ça, ces mots, c'est que on se protège soi-même. En protégeant et en respectant ça, on peut le faire d'une manière complètement égoïste si on n'a pas d'autre motivation.
Pardon, Florence Hartmann, quand on voit l'attitude de Bachar el-Assad face à des multiples accusations de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de perspectives de jugement, on peut encore se poser la question de la puissance d'une image de la justice pénale internationale.
Ce sont les enjeux politiques, effectivement. Il y a l'histoire de Daesh partout, maintenant, concernant la Syrie, et que ça arrange beaucoup de choses, et voilà. La question, c'est non, bien sûr, non à l'impunité, ça a quand même emmené ça. Après, la réalité, c'est que on voit très bien que pour l'instant, la politique, elle reste encore assez puissante. Maintenant, on verra bien. Bachar el-Assad, il a une longue vie encore.
Et pour conclure sur les Balkans, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant pour qu'il y ait une vraie réconciliation ? Puisque vous connaissez bien l'une et l'autre, c'est
de l'éducation,
zone.
De la.
L'éducation a été faite à l'envers. C'est-à-dire que les nouvelles générations qui n'ont pas leur expérience directe de la guerre, même les salauds, entre guillemets, dans l'expression en tout cas, l'ont quand même vécu la guerre. Donc il y a des points d'attaque dans la discussion. On peut leur dire, vous savez très bien ce qui s'est passé. On ne peut pas avec un jeune qui a vécu dans le déni et qui n'a pas sa propre expérience. Donc,
il faut du temps.
Mais là, il y a l'éducation à l'envers. Oui. Il n'y a pas eu le processus en Allemagne parce qu'ils n'étaient pas forcés. Ce qu'il faut, c'est surtout leur dire, parce que c'est pour ça, c'est dire aux élites politiques, parce qu'il y a il y a des alternatives politiques dans ces pays-là. C'est pas homogène. Il faut leur dire, le crime ne sera jamais récompensé. C'est pas la peine d'espérer, d'attendre, de redécouper ce pays sur la base des charnières
et du nettoyage ethnique. Mais
l'Europe ne le dit pas. Elle leur dit, bon, d'accord. Non, ils disent, on ne s'entend pas, donc découpons. Non, le crime ne sera jamais récompensé. Il faut leur dire ça et ça changera.
Eh bien, merci à vous toutes. Florence Hartmann, journaliste, ancienne porte-parole de la procureure du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Céline Bardet, juriste, spécialiste des questions de justice internationale, présidente de l'association We Are Not Weapons of War. Vos bibliographies, des liens également sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci également à vous Isabelle de Gaulmin, rédactrice en chef du journal La Croix. On peut encore trouver le numéro d'aujourd'hui en kiosque dans lequel se trouvent les interviews de nos deux invités de ce soir. Et merci enfin à l'équipe de ce Grain à Moudre, Antoine Tricot, Philippine Lebray, Marine Beccarelli, Antoine Dulster, Eva Pellerin, Alexandra Candil Longuet à la réalisation et à la prise de son ce soir Inès de Bruyne. Demain, dernière émission de la semaine sur le thème des explorateurs, c'était le thème de cette fin d'année sur notre antenne, et nous nous demanderons ce que les réseaux sociaux ont fait au voyage. Dans un instant, la dispute avec Arnaud Laporte, mais tout de suite, il est 19h sur France Culture.